Chapitre 55. Départemental coupé, passage à gué, éboulement, le chaos. À grand renfort de deux tons, Nicolas Galera est dû emprunter de petites routes pour atteindre Auxerre. Il vit des mouettes flotter à l'endroit où devait exister un champ. Même les animaux perdaient leurs repères. Avec une bonne dose de patience et un sandwich avalé en quatrième vitesse, il arriva à bon port. La pouponnière de l'Ermitage avait tout d'une école maternelle, avec sa façade bleu ciel, son parc de jeux sur un terrain en gomme, son enfilade de baies vitrées qui donnait non pas sur des salles de classe, mais sur des chambres. Des tracteurs et des vélos en plastique étaient regroupés sous le porche. Nicolas se présenta à l'accueil, montra sa carte de police et demanda à parler à la directrice, Maude Mazarian, qui arriva quelques minutes plus tard. Elle devait avoir son âge, avec un front haut et bombé, des cheveux aux reflets acajou, traversés de mèches gris clair et attachés en queue de cheval. Nicolas expliqua la raison de sa visite. Il travaillait sur une grosse affaire en rapport avec l'ultimatum sur Internet. Son équipe coopérait avec le commandant Boetti. Et tout lui laissait penser que le petit Lucas avait un rôle important à jouer dans leur enquête. Dans un premier temps, il aurait aimé voir le bébé et en savoir plus sur son séjour à la pouponnière. Maude Mazarian le regarda d'un air grave. « Comment va la femme de Bertrand le Sage ?»« Je l'ignore. Pas bien, je suppose. »« L'histoire avec ses réservoirs d'eau, c'est horrible. Comment peut-on faire une chose pareille ?»« Malheureusement, l'imagination des assassins est sans limite. »« On a tous assisté à ces horreurs ici. »« On ne pouvait pas faire autrement, c'était dans tous les médias. »« Mince, ça a été insupportable. » Elle garda le silence quelques secondes, puis lui posa des questions sur l'enquête auxquelles il répondit de la manière la plus évasive possible pour ne pas la froisser. Elle finit par prendre une fiche. Elle lui demanda de la remplir et fit une copie de sa carte de police et de sa carte d'identité. « Désolé, ce sont les consignes. La plupart de ces enfants nous ont été confiés sur décision judiciaire. N'entre pas ici qui veut. » « Je comprends. » Elle échangea quelques mots avec l'hôtesse d'accueil et fit signe à Nicolas de la suivre. « Nous avons 32 petits pensionnaires dont nous nous occupons 24 heures sur 24. Notre aîné, Lou, a bientôt 3 ans. Quant à Lucas, il est arrivé ici une semaine après sa naissance en mars dernier. Comme vous le savez, une décision de justice le maintient dans nos locaux. Avec ce qui s'est passé pour son père, je ne sais pas comment tout ceci va se terminer, pauvre gamin. » Nicolas ne releva pas. Sans doute, la directrice ignorait-elle encore que Bertrand le Sage n'était pas le père biologique de Lucas. En tout cas, maintenant qu'elle était veuve, Hélène le Sage ne récupérerait jamais cet enfant avec lequel elle n'avait aucun lien. Ils avancèrent dans un couloir, passèrent devant des chambres, une cuisine, une salle de soins. La vie jaillissait comme d'une fontaine de jouvence. Des bébés de toute taille criaient, riaient, galopaient, encadrés par des auxiliaires de puériculture en blouses rayées de blanc et de rose. Nicolas éprouva une profonde tristesse parce que d'une façon ou d'une autre, malgré les sourires ou les gestes tendres du personnel, ses enfants allaient vivre les premiers mois de leur existence privés de l'amour de leur mère ou de leur père. Coupable d'être né. En croisant les yeux vifs de ces petits en besoin d'affection, Nicolas pensa à son propre père. Depuis combien de temps ne s'étaient-ils pas parlé tous les deux? Que lui resterait-il s'il coupait le dernier lien qui le rattachait à sa famille? Il se promit d'appeler quand tout ça serait terminé. Tous sont nés sous X? Non, seulement quelques-uns. La plupart ont été victimes de graves négligences ou de maltraitances. Un juge a décidé de les éloigner de leurs parents pour leur sécurité. Ces enfants ne partent pas avec les meilleurs atouts dans la vie, Aussi, nous faisons notre possible pour les aider. Vous allez trouver cela incroyable, mais certains enfants nés sous le secret se font oublier, ne pleurent jamais, ne réclament pas à manger ou dorment beaucoup comme s'ils étaient conscients du manque d'amour de leur mère. C'est pourquoi il est important qu'ils se sentent aimés dans les premiers mois de leur existence. C'était le cas de Lucas ? Il cherchait à se faire oublier ? Non. Lui était au contraire très expansif, plein de vie, réclamant beaucoup d'attention. Il a d'ailleurs fait ses premiers pas il y a quelques jours, avant ses 8 mois. C'est tôt pour marcher. Un peu tôt, oui, mais rien d'extraordinaire. Vous êtes père ? Non, non. Elle n'insista pas. Elle avait senti une gêne dans la réponse, une nette envie de ne pas aborder le sujet. Elle indiqua le bout du couloir. « Nous y voilà !» Ils entrèrent dans une chambre meublée de 3 lits à barreaux, de casiers colorés, de barrières en bois amovible, qui permettaient ou non d'individualiser l'espace de chaque enfant. Petite table, chaise, coin cuisine avec ustensiles, évier, micro-ondes pour chauffer les repas. Un bébé dormait, un autre était assis dans son lit, un troisième prenait son repas, installé dans une chaise haute. Une jeune femme lui tendait des cuillerées d'une mixture indéfinissable. « Voici Gwendoline Wess, » expliqua Mazarian. « Elle est auxiliaire et s'occupe de 6 enfants, dont Lucas, qui est là-bas, à droite. Elle est sa référente. » Nicolas la salua. Gwendoline lui offrit un sourire timide et retourna à sa tâche, car le bébé s'impatientait. Le flic prit garde de ne pas écraser un jouet en s'avançant vers Lucas. L'enfant, occupé à manipuler un mobile, se redressa. Ses petites mains potelées vinrent enserrer les barreaux de son lit. Nicolas ne sut dire pourquoi, mais il ressentit une forme de déception. Il s'attendait à un Apollon, un bébé de publicité ou de catalogue. Mais Lucas n'était pas d'une beauté singulière, avec un nez écrasé et des yeux noirs qui paraissaient trop écartés. Ses cheveux se dressaient comme des pics. L'enfant lui sourit. Alors, Nicolas s'accroupit et lui sourit à son tour. « Alors, c'est toi, Lucas ?» Le bébé poussa un cri et ouvrit encore plus sa bouche d'où jaillissaient 2 pointes d'émail blanche. Nicolas lui toucha la main et ressentit une sorte de chaleur au fond de son cœur. Il évita de se laisser attendrir, se redressa et recula. Se tourna vers la référente. « Vous n'avez rien remarqué en ce qui le concerne. Je veux dire, il a l'air ok. Pas de soucis, de maladies remarquables, de particularités ?» Gwendoline secoua la tête. « C'est un bébé comme un autre, si c'est ce que vous voulez savoir. Il est suivi par le médecin de la pouponnière, évolue dans les courbes de poids et de taille standard, a fait une otite, une jaunisse, et des poussées dentaires qui lui ont provoqué des fièvres particulièrement fortes. Niveau caractère, Lucas est très calme et jovial. Enfin voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il n'y a pas plus ok que lui. » Nicolas acquiesça, puis s'adressa à la directrice. « Des gens sont-ils venus le voir ? Vous posez des questions à son sujet ? Aurait-il pu se passer des choses inhabituelles autour de Lucas, hormis tout ce qui touche à la médiatisation de cette histoire de GPA ?»« Non, rien de particulier. Le commandant Boetti est venu juste une fois avec un spécialiste pour un prélèvement ADN de Lucas, le mois dernier, afin d'établir la paternité de Bertrand Lesage. » Mais hormis le personnel interne, des assistantes sociales qui suivent le dossier, il n'y a rien à signaler. Même si son identité a filtré dans la presse, nous essayons de protéger au maximum Lucas. Personne ici ne s'est livré au jeu de l'interview avec les journalistes. Gwendoline vous l'a dit, Lucas est un bébé comme les autres, même s'ils sont bien sûr tous différents. Nicolas sentit le poids de la déception. Mais il n'arrivait pas à se faire à l'idée que ni de Monchot ni sa bande de dégénérés n'avaient cherché à approcher le gamin. Ils avaient traqué, enlevé et éventré sa mère. Ils ne pouvaient ignorer l'enfant. Il capta le regard de Gwendoline et lorsqu'elle détourna la tête, il sentit une palpitation, un signal au fond de son ventre. Il s'approcha d'elle. « Il y a quelque chose que vous voudriez me dire ?» Le bébé tapait des mains sur sa table avec l'impatience des affamés. La jeune femme glissa une cuillerée au fond de sa bouche. « C'est que... » Elle se tourna vers sa directrice. « Cette marque rouge... » La directrice hocha la tête. « On en a déjà parlé, Gwendoline. » La puéricultrice piqua un phare. Nicolas s'engouffra dans la brèche et fixa la jeune femme. « Vous m'expliquez ?»«
Ce n'était rien, » intervint la directrice.
Un matin, Gwendoline a remarqué une rougeur et un petit trou avec une pointe de sang séché sur le bras de Lucas. Il avait dû se piquer quelque part durant la nuit, peut-être une écharde dans le bois de son lit ou une araignée.
Nicolas demanda à Gwendoline. « C'est ce que vous croyez ?»
Elle hésita un moment, puis répondit
« Pas sur le coup. Je ne voyais pas où il aurait pu se piquer. J'ai tout contrôlé. Ce n'était pas un bouton d'araignée. Pour tout vous dire, j'ai immédiatement pensé à une aiguille. Le point était pile sur une veine, au niveau de l'avant-bras gauche. Le teint de Lucas était très pâle.
« Une prise de sang ?»
Elle hésita, puis haussa les épaules.
« Ça m'est venu à l'esprit, mais ça n'avait aucun sens. » Pourquoi on aurait fait une chose pareille en pleine nuit?
Madame la directrice a raison. Sans doute s'était-il blessé avant le coucher et je n'avais rien remarqué. En tout cas, le médecin l'a ausculté, tout allait bien.
Vous vous rappelez la date exacte?
Le docteur l'a relevé, oui. Mais de mémoire, c'était le dernier dimanche de septembre. Dans la nuit du dimanche lundi, donc. J'ai couché Lucas à 21h et il a pleuré aux alentours de 6h.
Bélanger remercia Gwendoline et emmena la directrice à l'écart. « J'aurai besoin de connaître la liste des personnes présentes cette nuit-là dans la tranche horaire indiquée. Vous avez forcément un planning. »«
Je ne comprends pas. Que cherchez-vous précisément ?»«
Des réponses, Madame Mazarian. Ce gamin et sa mère étaient traqués, et cela bien avant sa naissance. Avant septembre, personne ne savait où la mère et l'enfant se trouvaient. Puis l'affaire de GPA est médiatisée début septembre. Le nom du gamin et celui de votre pouponnière apparaissent dans la presse. Et 2 ou 3 semaines plus tard, arrive cette histoire de piqûre. Ce n'est pas un hasard. Je crois que quelqu'un en interne ou étranger à l'établissement est venu dans cette chambre pour prélever le sang du bébé. »
Maud Mazarian secoua la tête. « C'est impensable. Je vous l'ai dit, personne n'entre ici, et j'ai entièrement confiance en mon personnel. Ce sont des personnes... »«
S'il vous plaît,
la liste. »
Après une hésitation, elle l'emmena dans son bureau, agita la souris de son ordinateur et pianota sur son clavier.
« La nuit du 24 au 25 septembre, voilà, 5 auxiliaires de puériculture, une infirmière, un gardien... » et une femme de ménage.
« Vous pouvez me l'imprimer ?»
Elle s'exécuta. Nicolas récupéra la liste et la parcourut avec attention.
« C'est un personnel fiable, je suppose, et qui travaille avec vous depuis longtemps. »
« Hormis la femme de ménage, depuis des années, oui. Henri, le gardien, était là avant mon arrivée, et les autres sont à mes côtés depuis au moins 2 ans.
« La femme de ménage, vous dites ? Parlez-moi d'elle. »
La réplique de Nicolas sembla intriguer Maud Mazarian. Elle se pencha vers son écran et leva la main pour le faire patienter. En effet, c'est curieux maintenant que j'y pense.
Elle releva ses yeux gris vers Nicolas.
Le personnel de nettoyage est fourni par une société d'intérim, Adomi. Anne Chougrani, présente tôt le matin du 25, n'était pas l'employée que nous avions l'habitude de voir. Elle remplaçait Diane depuis quelques jours. Diane avait été agressée en rentrant chez elle et arrêtée une 15aine de jours. C'est cette Anne Chougrani qui l'a remplacée sur cette période. Une femme au teint anémié, peu bavarde.
Par hasard, vous savez si cette Anne Chougrani avait une phalange en moins à l'auriculaire de sa main gauche ?
Le regard de la directrice partit vers la gauche, puis revint vers Nicolas. Oui, oui, je me souviens de ça.
Le clan était venu ici. Nicolas rendit sa feuille à la directrice. Notez-moi l'adresse de cette société d'intérim.